Par actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités du 20 mars 2018. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui, Google Maps proposera des trajets aux personnes à mobilité réduite. Devenu paraplégique à la suite d'un accident de travail, aussi un cours pour comprendre son enfant autiste. Handicap mental, petit à petit, le sexe fait son lit. En entrevue, je reçois Jade Galicia, sœur de Jérémy et membre du regroupement pour la trisomie 21. Elle a participé à une capsule vidéo sur le thème cette fois de la fratrie à la veille de la journée mondiale de la trisomie 21. Aussi, je reçois Renée Hébert, agente d'information et de liaison pour le volet autisme Chaudière-Appalaches de l'organisme L'Arc-en-Ciel qui viendra nous parler de programmation en ce mois d'avril qui approche, qui sera le mois de l'autisme. Nouvelle tirée de Radio-Canada, Google Maps a dévoilé jeudi une fonctionnalité qui permettra d'obtenir des trajets accessibles aux fauteuils roulants lors de déplacements en transport commun. La populaire application de cartographie a annoncé dans un communiqué qu'elle mettra à contribution les données des services de transport en commun afin de proposer des parcours pour les personnes à mobilité réduite. Pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible que dans 5 grandes villes, Boston, Mexico, Londres, Tokyo et Sydney. Rio Akazaka, chef de produit pour Google Maps, a fait savoir que l'entreprise compte déployer l'application dans d'autres villes au cours des prochains mois. Pour accéder au nouveau parcours, l'internaute doit entrer l'itinéraire désiré, puis cliquer sur « Options ». Une fois le menu « Options d'itinéraire » ouvert, il faut sélectionner le mode « Accessible en fauteuil roulant ». Les obstacles sont nombreux pour les personnes à mobilité réduite se déplaçant en transport en commun. Google Maps permettait depuis décembre 2016 d'identifier les commerces et restaurants accessibles aux fauteuils roulants, mais il n'offrait pas de parcours prenant en compte l'accessibilité des transports en commun. Une équipe de l'Université Laval, MobiliSIG, avait d'ailleurs développé il y a quelques mois une application pour faciliter les déplacements en fauteuil roulant dans le centre-ville de Québec. Les soignants du système de santé publique et groupes sociaux unis contre les inégalités. Grande manifestation le 24 mars pour exiger un système de santé publique fort et accessible. La population du Québec apprenait la semaine passée que le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, ont signé une entente qui va permettre aux spécialistes d'empocher 500 millions de dollars supplémentaires au fil des 4 prochaines années et environ 2 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans. Les médecins omnipraticiens ont quant à eux commencé à recevoir leur augmentation rétrospective découlant des négociations de 2016. Afin de demander que cet argent serve plutôt à financer un système de santé publique fort, réellement accessible et qui respecte autant les gens qui y travaillent que les patients qui s'en servent, MQRP appelle toute la population à se joindre à une manifestation sous la bannière « Unis pour la santé ». Qui débutera à la place Émilie-Gamelin le samedi 24 mars 2018 à 13h. Maître Paul Brunet du Conseil de protection des malades abonde dans le même sens. On a rarement vu dans la Société québécoise des médecins élus du peuple convenir avec et pour d'autres médecins d'avantages financiers auxquels personne d'autre chez les travailleurs de la santé n'ont eu accès. Quelle honte, dit-il. Les patientes et les patients font les frais de la mauvaise utilisation des ressources financières en santé, comme le souligne Mathieu Franqueur, coordonnateur du mouvement PHASE, personnes handicapées pour l'accès aux services. Les syndicats, les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les associations professionnelles prévoient participer à la manifestation en grand nombre pour attirer l'attention sur la situation actuelle du personnel du milieu de la santé, qui est vraiment à un point tournant. Chaque semaine jusqu'au 21 mars, c'est demain, ça, Journée mondiale de la trisomie 21, on parle d'un thème de la vie d'un jeune vivant avec la trisomie 21 avec un membre de sa famille. Et aujourd'hui, je rencontre en studio Jade Galicia, sœur de Jérémy et membre du regroupement pour la trisomie 21. Bonjour Jade.
Bonjour, bonjour.
Vous avez donc participé à la 10e et je pense dernière, oui, c'est une série de 10 sur le thème de la fratrie. Vous avez aimé votre expérience?
Oui, vraiment, j'ai grandement aimé.
Oui? Vous l'avez enregistré récemment?
En fait, ça a été l'été dernier.
D'accord.
Là, ça va être publié aujourd'hui.
Oui, oui, sur trisomie.qc.ca.
Exactement.
On répétera les coordonnées à la fin de l'entrevue. Alors, Jade, votre frère, vous êtes la sœur donc de Jérémy. Jérémy qui a quel âge?
Jérémy qui a 26 ans.
26 ans.
Oui.
Et comment vous avez pris conscience de la différence de votre frère Jérémy?
C'est une bonne question, en fait. Pour ma part, Jérémy et moi, on a été très, très proches parce qu'on a exactement un an et un jour de différence. Donc, moi, j'ai 25 ans, lui, 26. Mm-hmm. On a fréquenté les mêmes écoles primaires. Donc, lui, il était dans une école régulière, moi aussi.
Pas dans la même classe. Mais non, évidemment, vous aviez un an et demi de différence.
Oui. Ouais. Non, mais non, en fait, non, c'est vrai, parce qu'on était quand même dans le même niveau.
Ah oui?
Oui, oui. Mais reste que on a fréquenté les mêmes garderies, même école primaire. Puis, veux pas, il y avait quand même le même cercle d'amis. Donc, moi, j'ai pas eu vraiment une grosse discussion sur ce que c'était la différence parce que il était vraiment présent dans mon entourage.
Et j'imagine que vos parents ont fait en sorte aussi que vous compreniez assez vite que votre frère était peut-être vivait avec la trisomie 21, mais quoi, vous l'avez pris comment? Oui.
En fait, c'est ça, c'est que je réalisais tranquillement que Jérémy avait peut-être besoin de plus d'attention que moi. Puis je pense que c'est par ça ici que j'ai réalisé que là, Jérémy, il est peut-être plus différent. T'sais, c'est sûr que mes parents m'en parlaient, mais c'était pas, je m'assois sur un sofa, puis là, on s'en parle. C'était vraiment plus une discussion comme ça allait de soi.
Ah oui, d'accord.
Et moi, ça a été ça pour ma part.
Mm-hmm. Et la relation que vous avez avec votre frère aujourd'hui?
Moi, j'ai une relation très, très proche avec mon frère.
Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Ça a toujours été comme ça, en fait. C'est sûr que là, on grandit, veux pas.
Ouais.
Donc, comme je le disais, au primaire, on était ensemble. Là, au secondaire, il est allé dans une école, lui, pour personnes ayant des besoins en particulier, du côté anglais, moi, dans une école régulière. Puis, bon, là, c'est sûr qu'on fait, on fait nos chemins, veux pas, parce que moi, j'ai 25 ans. T'sais, là, en ce moment, je suis dans le projet de m'acheter peut-être un appartement condo. Donc là, il y a tout ça qui rentre en jeu parce que, oui, je me considère très proche de lui, mais c'est sûr que la vie fait en sorte que je ne peux pas rester nécessairement tout le temps avec lui.
Non. Puis est-ce que ça s'organise bien? Est-ce que vous lui en parlez de cette réalité que vous vivez en ce moment? Là, vous pensez, vous achetez un condo et tout? Là.
Oui, c'est sûr qu'on lui en glisse un petit mot par-ci par-là, mais tu sais, je pense qu'on préfère y aller une journée à la fois puis voir comment que ça va résister. Tout ça va se dérouler parce que, tu sais, c'est sûr que du côté de mes parents, ils commencent aussi à faire les démarches pour pouvoir éventuellement peut-être le placer. Mm-hmm. Parce que Jérémy, je tiens à le dire, c'est une personne qui n'est pas autonome.
Ah non, d'accord.
Non. Donc, je sais que...
Pourtant, il a fréquenté une école régulière.
Oui, ouais, malheureusement. Bon, ben c'est ça. Dans son parcours à lui, Jérémy a été atteint de l'épilepsie. Puis là, maintenant, il y a un autre syndrome de bipolarité, etc.
Ah oui.
Donc, il y a des complications. Donc, ça peut arriver, ça. Donc, auparavant, effectivement, Jérémy était une personne autonome qui pouvait bien fréquenter des écoles.
Mais ça a changé.
Et ça a changé, malheureusement. Donc là, il y a tout ça qui rentre en jeu, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, reste que... C'est ça. Donc là, éventuellement, je pense qu'on va le placer. Donc, on fait les démarches pour, mais c'est pas toujours facile. Ça, je tiens à le dire.
C'est sûr.
C'est pas des choix évidents.
Non, ça doit pas. Pour personne.
Non, pour personne.
Et de quelle façon la présence de Jérémy a enrichi votre parcours?
Moi, de mon côté, c'est sûr que ça m'ouvre l'esprit, ça me rend plus sensible à certaines choses. J'ai décidé d'ailleurs d'aller dans le domaine de l'éducation en tant qu'orthopédagogue.
Ah
oui? Oui, oui.
Et donc, ça, il y a de Jérémy là-dessous?
Je pense que oui.
Ouais.
Oui, j'en viens que oui. Donc, c'est sûr que, je veux pas, ça vient me toucher sur plusieurs sphères. Je tiens juste à dire, moi, j'ai un petit frère aussi. Puis pour mon petit frère, c'est totalement
différent. Donc, vous êtes trois
différent.
Dans la famille.
Oui, exactement.
Il y a Jérémy, il y a Jade et le petit frère qui
oui,
a quel âge?
Qui a 20 ans.
Qui a 20 ans, qui
oui.
s'appelle comment?
Alec.
Alec.
Oui, exactement.
OK, d'accord.
Donc, tu sais, pour lui, c'est un peu différent. T'sais. Alors, ça dépend. Donc, voilà.
Et quelle qualité ça vous a permis de développer, d'être en présence avec... votre frère Jérémy.
Oui, donc comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, donc c'est sûr, une grande ouverture d'esprit.
Mm-hmm.
Je me sens aussi peut-être une personne plus tolérante envers certaines choses, très patiente aussi.
Est-ce que vous avez senti de la jalousie dans votre parcours depuis l'enfance? Là?
Oui.
Est-ce que vous aviez l'impression de passer après votre frère?
En fait, j'ai eu un petit épisode quand j'étais plus jeune, parce que c'est normal, parce qu'on est centré sur le jeu quand on
ouais.
est plus jeune. Puis, dans le fond, moi, j'étais chez moi, puis là, je me suis mise à pleurer. Puis là, j'ai souhaité, à ce qui paraît, à mes parents que je désirais avoir une trisomie 21.
Mais c'est pour avoir de l'attention.
Pour avoir de l'attention. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, parfois, quand
c'est
on est
normal.
Jeune, on fait c'est ça, exactement.
Ouais,
on fait
ouais,
pas ouais. la différence. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça serait pas la même chose. Alors,
Et est-ce que vous vous retrouvez souvent en famille? Là, bon, tout le monde grandit, vous allez bientôt voler de vos propres ailes.
Oui, oui.
Vous avez souvent des prétextes pour vous retrouver ensemble. Est-ce que vous vivez des beaux moments ensemble?
Oui, oui. C'est sûr que on soupe ensemble. Le dimanche ou samedi soir, on essaie d'aller au restaurant. Donc, c'est super anodin, mais c'est des moments familiaux.
Ah, oui.
Y a aussi, on part en voyage ensemble.
Ah oui?
Oui, oui, oui. Donc, on part dans un tout inclus. Donc, pour lui, c'est quand même une formule plus juste pour Jérémy parce que il n'y a pas nécessairement des grosses escapades à faire.
Mm-hmm.
On reste sur place puis on profite. Donc, oui, je vous dirais de ça. Mais aussi, bon, dû à son épilepsie et tout, Jérémy, il a souvent des crises. Puis, on profite aussi de chacun des moments où est-ce que ça arrive qu'il n'a pas de crise.
Ouais.
Donc, tu sais, admettons, la semaine passée, je suis allée au cinéma avec lui, puis justement, il n'y a pas eu de crise. Mais ça, pour moi, c'est un beau moment pour
oui,
Jérémy.
C'est un cadeau, puis c'est un beau moment, oui.
Exactement.
Alors, c'est vraiment un jour à la fois, comme
oui.
dirait, je ne sais pas qui, un chanteur qui a enregistré une chanson qui s'intitulait comme ça, je crois. Mais c'est de vivre le moment présent.
Exactement,
oui.
C'est vraiment ça avec
oui.
Jérémy. Oui, oui.
Alors, Jade Galicia, sœur de Jérémy, vous le saluerez, ainsi que votre frère Alec et vos parents. Et on ira voir la capsule que vous avez enregistrée sur le thème de la fratrie, trisomie.qc.ca. Est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial dans le cadre de la Journée mondiale de la trisomie 21?
Bien, c'est sûr que moi, de mon côté, je fais toujours ma petite publicité sur les réseaux sociaux.
Oui.
Donc, parce que, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui connaissent bien ma réalité puis qui supportent le tout. Donc, il y a déjà ça en partant. Puis, c'est sûr que, en fait, vendredi, je fais déjà un atelier de danse auprès de personnes ayant une trisomie 21.
Ah oui?
21,
oui? Ça va se passer où?
Ça va se passer au centre du regroupement de la trisomie 21. Puis, je pense qu'on fait même un tournage vidéoclip. Alors, mm-hmm. non, c'est
Est-ce que vous
soirée.
Êtes tatouée, vous, parce qu'il y a eu une journée de tatouage?
C'est vrai. Effectivement, il y a eu une journée de tatouage. Pardon. Moi, malheureusement, dû au contretemps, je n'ai pas pu, mais j'ai lu l'article. Puis, je suis fière. Je suis
oui.
vraiment fière de ce
oui.
mouvement, puis vraiment wow.
Alors, un grand merci, Jade Galicia, d'être passée dans notre studio.
Ça
Je vous souhaite
plaisir.
Une belle journée, puis au plaisir de vous revoir, on ne sait jamais.
Certainement.
Bye bye.
Merci. We'll be right back.
Dans cybersoleil.com, devenu paraplégique à la suite d'une chute de près de 5 mètres sur un chantier de construction, Jonathan Plante a raconté son histoire à des élèves du Centre de formation professionnelle des moissons de Beauharnois et de l'École secondaire des Patriotes de Beauharnois le 14 mars pour les sensibiliser à l'importance de la sécurité au travail. Monsieur Plante le dit d'entrée de jeu, « Je suis un petit cow-boy. Je faisais partie des gens qui pensaient être à l'abri des accidents. » Adepte de sensations fortes, il adorait faire de la moto, faire du sport et des activités en plein air. Il travaillait comme charpentier-menuisier sur des chantiers de construction et aimait particulièrement travailler en hauteur car cela lui procurait une sensation d'adrénaline. « J'avais pour théorie que ceux qui tombent, ce sont ceux qui ont peur », explique le conférencier. La journée du 12 mars 2007 lui a malheureusement prouvé le contraire. « J'ai fait une chute d'environ 15 pieds. J'ai atterri au sous-sol de la maison, sur le dos, sur une planche de 2x6 qui avait 2 pouces de glace dessus », raconte-t-il. Résultat, 2 vertèbres fracturées, moelle épinière sectionnée. Jonathan Plante est devenu paraplégique. Les médecins lui ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. « Du nombril aux orteils, je ne sens et je ne contrôle plus rien », explique-t-il. Après l'accident, il s'est demandé pourquoi ça lui était arrivé. Le constat était brutal, tout ça pour 10 minutes. Ça nous aurait pris 10 minutes pour faire une belle rampe sécuritaire, explique M. Plante. On avait les matériaux, les outils et les compétences pour le faire. Le mois d'avril est le mois de l'autisme et pour en parler, on va parler de programmation du côté de Chaudière-Appalaches avec Renée Hébert, agente d'information et de liaison pour l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Bonjour, Madame Hébert.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes prête pour ce mois d'avril qui s'en vient quand même à grands pas?
Oui, on s'affaire là, présentement à organiser les activités qu'on a prévues à notre programme pour le mois d'avril.
Alors, que faites-vous dans votre région?
Ben, en fait, nous, on participe, comme la plupart des autres régions au Québec, à la journée du 2 avril, qui est la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, on fait la promotion de cette journée-là. On invite la population à faire briller en bleu. C'est la thématique de cette journée-là.
Faire briller en bleu, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben,
faut s'habiller en bleu?
On peut s'habiller en bleu, on peut illuminer notre résidence en bleu, on peut installer des petites lumières dans notre bureau, au travail, à la garderie, à l'école. Il y a plein de choses qu'on peut faire.
Pourquoi la couleur bleue?
La couleur bleue, ben, c'est parce que ça symbolise la prévalence de l'autisme chez les garçons. Donc, c'est pour ça que c'est la couleur bleue qui a été choisie.
Mm-hmm.
Et puis, on l'utilise là, justement toutes les sauces là, pour. C'est un prétexte pour faire de la sensibilisation.
Oui. Et c'est une belle couleur.
Oui, c'est une belle couleur.
Alors, il y a aussi la journée régionale annuelle.
Oui, bien, c'est ça. Là, quand au niveau plus régional, oui. Dans notre programme d'activité, on organise à chaque année une journée régionale qui s'appelle la Journée régionale autisme Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une journée de conférence qu'on tient à la Cache à Maxime, à Scott, en Beauce. Et puis...
Le 14 avril?
Le 14 avril, oui.
Ouais.
C'est ça, c'est le 14 avril prochain. Et puis, on invite des conférenciers qui vont venir nous entretenir sur le trouble du spectre de l'autisme, mais en faisant des liens aussi avec différentes problématiques ou différents défis là, que les parents peuvent rencontrer, parce que c'est sûr qu'on s'adresse principalement aux parents, mm-hmm. aux personnes autistes aussi, puis aussi aux intervenants, les enseignants qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus.
Et qui sont les conférenciers invités? Est-ce que vous avez les noms déjà?
Oui, tout à fait. On a Mélanie Pilon qui vient nous faire une conférence, un petit atelier de sensibilisation sur le développement socio-sexuel des enfants autistes.
Mm-hmm.
Et puis ensuite aussi, on a André Parent qui est un conseiller d'orientation en pratique privée, en école spécialisée, mais qui a une expertise en TSA, en autisme. Et puis, lui, il va venir nous parler du projet scolaire et professionnel pour les personnes qui ont un TSA. Oui, c'est possible, en autant qu'on ait une bonne préparation et une bonne compréhension de ce qu'est le TSA. Et puis, aussi, on a M. Jean-François Pichette, qui est ergothérapeute, qui va venir nous parler de l'autorégulation, pardon, c'est un mot que...
Oui, c'est pas nécessairement évident.
Et puis, c'est ça, dans le fond, l'importance hein, pour l'enfant de développer des mécanismes là, qui vont lui permettre de favoriser ses apprentissages. Et puis, notre surprise de fin de journée, c'est Mathieu Graton, qui est humoriste et aussi papa d'un enfant TSA.
Benjamin.
Donc, oui, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, M. Graton va venir nous faire une conférence témoignage en fin de journée. Ça va être comme notre surprise de l'après-midi.
Bon. Donc, alors, une surprise qu'il devient moins, étant donné que vous en parlez tout de suite, mais on est heureux d'avoir le scoop en bon français.
Ben oui, c'est ça. C'est justement, donc, c'est ça. C'est une petite gâterie qu'on se fait. On veut finir notre journée sur une note plus légère.
Oui.
On sait que M. Graton est quand même assez impliqué. Fait ça toujours avec une petite touche d'humour et puis des fois, ça fait du bien aussi.
Bon, alors le 14 avril, à inscrire à l'agenda, il y a aussi un souper-conférence le 23 à Saint-Georges-de-Beauce.
Oui, le 23 avril, un souper-conférence avec Mme Édith Leclerc, qui est une maman qui a relevé le défi de partir en voyage l'été dernier avec son fils autiste non-verbal, un voyage qu'elle a fait seule avec lui. En caravane et puis elle est allée au Nouveau-Brunswick dans le bas du fleuve et puis ça a été elle vient
une aventure.
Oui, une grosse aventure parce qu'avec un enfant autiste assez sévère et qui est non-verbal, là, ça prend une bonne préparation puis aussi une bonne dose de courage.
Je comprends.
Mais c'est ça, c'est un récit très, très, très intéressant.
J'imagine.
Dans le fond, c'est la preuve aussi qu'on peut s'offrir des défis comme ça même quand on a un enfant handicapé. Donc,
Oui. Il ne faut pas s'empêcher de rêver et de réaliser certains rêves.
C'est aussi très inspirant.
Renée Hébert, il y a la marche de l'autisme le 28 avril, c'est à Lévis.
Oui, c'est ça. On va clore nos activités du mois de l'autisme avec cette marche-là. C'est une marche qui se fait à peu près partout au Québec aussi. Nous, à Lévis, on va avoir un trajet là, dans le Vieux-Lévis. On va prendre départ en début d'après-midi le 28 avril dans le secteur du Vieux-Collège de Lévis. Donc, c'est ça. Ça va être une occasion, encore une fois, de s'afficher, de participer, de sensibiliser à l'autisme.
Parfait. Alors, si on veut participer, si on veut avoir des informations pour les activités organisées dans votre région, il y a un numéro de téléphone ou une adresse courriel ou vous avez un site Facebook aussi?
C'est
vous avez une page Facebook?
Une page Facebook. On recherche Autisme Chaudière-Appalaches. On trouve ça assez facilement. Notre site Internet aussi, à partir du site arc-en-ciel-rpph.com. On s'en va tout de suite dans la section Autisme Chaudière-Appalaches. On a tous les détails. Et bien entendu aussi par téléphone au 418-248-3055. Vous demandez René, puis je vais répondre à toutes vos questions.
Parfait. Le 2 avril, on voit la vie en bleu.
Oh oui, ça c'est certain. On se prépare. On va s'afficher.
René Hébert, agent d'information et de liaison pour l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, volet autisme, Chaudière-Appalaches. Un grand merci pour cette entrevue.
Ça me fait plaisir, merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Les parents d'enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, TSA, peuvent se sentir dépassés par les réactions de leurs enfants. Pour mieux les outiller, un cours de 12 ateliers est offert une fois par année depuis 2016 en Mauricie et au centre du Québec. L'objectif est de mieux comprendre le trouble et développer de nouvelles astuces pour aborder la vie de tous les jours. Une troisième cohorte suit actuellement le cours, l'ABC du comportement d'enfants ayant un TSA. Le programme est offert par le CIUS de la Mauricie du Centre du Québec aux parents d'enfants de moins de 8 ans avec un diagnostic de trouble de l'autisme. Les animatrices leur préparent notamment un plan d'action pour améliorer certains éléments avec leur enfant. Karine Saint-Onge participe actuellement à ces cours. Son fils Guillaume Blanchette est âgé de 7 ans. Madame Saint-Onge n'en est qu'au quatrième atelier, mais déjà, elle développe de nouveaux trucs pour aider son fils. Alors, Alors, j'avais annoncé le sujet handicap mental. Petit à petit, le sexe fait son lit. J'y reviens assurément demain. L'émission est terminée. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Maurice Bolduc à la technique. Merci aussi à mes invités. Ici Hélène Denis qui vous remercie, vous, d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle journée. Le printemps qui arrive dans quelques minutes. Bon printemps et à demain.